Avec Freud au quotidien, essai de psychanalyse appliquée, de Philippe Grimbert, lu par Martine Bressan, extrait. Longtemps je me suis allongée de bonne heure, sur le divan de mon psychanalyste. Tôt le matin, deux fois par semaine, j'ai franchi le porche de cet immeuble devenu ma seconde adresse. J'y ai revisité mon histoire, convoqué le plus intime de moi-même à travers mes actes manqués, mes dérapages ou mes ratés, et compris quelle motivation inconsciente dirigeait ma destinée, plus sûrement que ma volonté, plus sûrement encore que ma conscience. Ainsi, je me suis peu à peu affranchi des inhibitions, de la culpabilité dont j'avais hérité, de ces empêchements, de ce qui nous tient et nous mène, parfois à notre perte. Si guérison veut dire, comme dans le discours médical, éradication des symptômes, je ne suis pas sorti guéri de ce voyage. Mais bien mieux, j'ai appris à faire avec mes failles et à transformer mes faiblesses en force, en créativité. Cette démarche, nous sommes nombreux à l'avoir entreprise, nombreux à reconnaître dans la psychanalyse une expérience irremplaçable. Longtemps après sa conclusion, elle continue d'exercer ses effets sur notre existence, mais aussi sur notre vision du monde à laquelle Freud chaque jour encore apporte ses lumières. En ce qui me concerne, le savoir de l'analysant que j'étais a nourri celui de l'analyste que je suis devenu et qui, à son tour, accompagne ceux qui souhaitent entreprendre la même traversée. Cette pratique se double d'un projet que permet l'écriture, témoigner de ce voyage au plus profond de soi-même, partager et transmettre le regard singulier de la psychanalyse. C'est pourquoi, au long de ces pages, j'ai voulu chausser les lunettes de Freud, ajuster mon regard au sien pour traiter de sujets aussi divers que fumée, politique, cinéma ou chanson, pour ne citer qu'eux, mais aussi de leur résonance intime avec mon propre parcours. Ces essais de psychanalyse appliqués à des questions de société, et à moi-même, constituent une réponse à mon désir de comprendre les ressorts secrets d'un monde souvent énigmatique et d'en déchiffrer les enjeux inconscients, avec Freud au quotidien. Compter avec l'inconscient. L'inconscient existait-il avant que Freud ne le découvre? Bien entendu, tout comme l'électricité ou l'atome. Exerçait-il déjà ses effets? Évidemment, tout comme la poussée d'Archimède avant son Eureka ou la rotation de la Terre avant les Poresi Muove de Galilée. Mais comment interprétait-on ces surgissements, ces manifestations, quand on ne savait sur quoi trébuchaient les humains, ce qui provoquait leurs empêchements, leur malaise? Probablement, comme on le fait encore aujourd'hui, dans la plupart des cas, quand on ne veut rien savoir de son existence, on évoquait la maladresse, la distraction, l'erreur pour expliquer les actes manqués, un désordre purement biologique pour donner un sens à certains symptômes résistants au savoir de la médecine. Ou bien encore, dans les cas d'échecs à répétition, les malédictions familiales, on se référait à la destinée, à la fatalité et bien sûr avant tout au ciel. Vengeance divine, tissage des parcs, châtiment du Tout-Puissant ou encore influence des astres. Les interprètes de l'inconscient d'alors se nommaient augures, grands prêtres, astrologues, pitis, et leurs paroles, sans doute aussi sûrement que celles de nos analystes d'aujourd'hui, produisaient leurs effets, expliquaient, soulageaient, guérissaient. Tout cela n'a pas pour autant disparu. Les oracles existent toujours, moins intégrés au fonctionnement de la cité, surtout depuis que leurs dieux ont été poliment priés de rester à leur place et sommés de ne plus interférer dans le politique, depuis que les monuments de l'État dans nos démocraties ne sont plus confondus avec ceux du culte. Ils sont cependant toujours consultés, par le peuple aussi bien que par les princes, dans le cabinet des voyantes et des astrologues, en secret dans la discrétion d'un confessionnal, parfois même dans la pittoresque officine d'une chambre de service aménagée en case de marabout. On savait autrefois que l'on pouvait compter sur la sévérité ou la mansuétude des divinités tutélaires, compter sur le déchiffrement des écritures qui en connaissaient sur nous bien davantage que nous-mêmes. Aujourd'hui, depuis Freud et bien que beaucoup d'entre nous s'en défendent encore, nous savons que nous devons compter avec l'inconscient. Cet autre en nous, qui dirige nos actes et influe sur notre destinée, qui construit et modèle notre pensée bien plus sûrement que le cartésianisme dans lequel notre tradition nous avait ancrés. Compter avec cet autre qui sait compter lui aussi, calculateur hors pair, qui maîtrise mieux que nous les chiffres, n'oublie jamais un anniversaire et sait le commémorer, souvent dans la douleur. Comptez avec cette logique interne qui nous modèle à notre insu et transforme notre moi en organe de méconnaissance, alors que longtemps nous avons cru au mirage de l'introspection. Comptez avec ce discours qui tient les rênes de notre destinée, qui ne cesse de nous échapper et dont il convient de déchiffrer les énigmes dans nos symptômes, dans nos rêves, dans les scénarios de nos fantasmes. Sans doute est-ce la notion la plus dérangeante apparue au XIXe siècle dans le domaine de la pensée, parce qu'elle déloge le moi de sa position de maîtrise, parce qu'elle remet en question la suprématie de la raison et l'empire de la connaissance de soi, elle se trouve aujourd'hui encore en butte à des attaques virulentes de la part de certains philosophes, comme de certains adeptes des thérapies comportementales et cognitives, ces fameuses TCC, qui nient l'inconscient freudien et proposent des traitements parfois proches du conditionnement pavlovien. Ces thérapies se montrent, en cela, fidèles à la ligne d'un libéralisme outrancier qui voudrait appliquer au domaine psychothérapeutique des critères identiques à ceux du management, efficacité, rapidité, évaluation. Mais cette nouvelle mouvance, si elle peut se féliciter de quelques succès dans le traitement de pathologies spécifiques telles les TOC, troubles obsessionnels compulsifs, entraîne dans son sillage des déviances dangereuses et pour notre santé mentale et pour nos libertés, telle l'évaluation des risques de délinquance dès l'école maternelle. C'est une des raisons pour lesquelles la psychanalyse pose un regard critique sur ces pratiques contraires à son éthique, ainsi que sur toute tentative d'enfermement de l'humain dans des chiffres, des graphiques, des cases ou des conditionnements, tentation contemporaine face à laquelle elle fait acte de résistance. Je ne suis pas optimiste. Ces pratiques voguent à ce point sur l'air du temps qu'elles ne peuvent que séduire. Je suis obligée de constater leur succès croissant aux dépens de la richesse de l'enseignement dans lequel j'ai baigné, si proche d'un humanisme qui m'a appris les effets de la psyché sur le soma et à quel point les deux sont indissolublement liés. C'est pourquoi il ne me viendrait pas à l'esprit de nier l'apport des neurosciences, de la génétique, ni les bienfaits que la chimie dispense à la souffrance mentale, mais à la condition que ces dernières ne réduisent pas l'homme à son symptôme et ne nous fassent pas oublier que chacun de nous est le produit d'une histoire individuelle, familiale et sociale, non réductible à un assemblage de neurones, aussi sophistiqué soit-il. C'est Freud que l'on assassine, pourrait-on en effet penser en lisant le « Livre noir de la psychanalyse », collectif paru sous la direction de Catherine Meyer, Les Arènes 2005. Ou « Le crépuscule d'une idole » de Michel Onfray, deux ouvrages qui proposent un catalogue de la détestation freudienne. Dans le second, le philosophe attaque férocement la personne même de l'inventeur de la psychanalyse, tentant de réduire à néant, à partir de l'inventaire de ses failles et de ses prétendus mensonges, la valeur de sa découverte. Mais l'ouvrage omet soigneusement de préciser que les failles de l'homme Freud, de sa découverte et de son utilisation thérapeutique, ont en fait été révélées, explorées, critiquées depuis fort longtemps par des générations de psychanalystes et d'historiens, bien avant que le philosophe d'Argentan ne s'y attelle, à la différence près que leur objectif n'était pas de détruire, mais de faire avancer la théorie et la pratique d'une discipline nouvelle qui immanquablement souffrait des erreurs et des tâtonnements de ses débuts. Car c'est une évidence, Freud a commis des erreurs. Mais ce qui fait la singularité de sa démarche, c'est qu'il l'a reconnu et écrit, porté par la dynamique d'une pensée sans cesse remise en question, entreprise unique dans le domaine de la littérature scientifique. Oui, c'est en puisant dans ses propres empêchements, ses rêves et ses fantasmes, que Freud a inventé la psychanalyse, ce qui ne fait pas de lui pour autant un malade tentant de justifier ses déviances, mais un névrosé ordinaire, comme nous le sommes tous, cherchant au plus profond de lui-même une vérité qui concerne chacun de nous. Oui, il est vrai que Freud n'a pas ouvertement critiqué l'irrésistible montée au pouvoir d'Hitler. Mais quel intellectuel, fût-il Michel Onfray, pourrait affirmer qu'il aurait trouvé ce courage dans la Vienne de l'époque? Oui, Freud a analysé sa propre fille Anna, ce qui nous paraît, même à nous autres psychanalystes, inconcevable dans notre pratique d'aujourd'hui. Oui, tout cela est exact, comme ses quelques succès thérapeutiques surestimés ou ses échecs patents. Mais ces errements théoriques et humains suffisent-ils à rendre la psychanalyse caduque ou inefficace? Et pour finir, oui, Michel Onfray dit vrai quand il affirme que la psychanalyse ne guérit pas, ce qui est confirmé par le témoignage de tous ceux à qui elle a permis de ne pas mourir avant l'heure, de ne plus être dupe de leur propre histoire, à qui elle a évité la répétition sans fin d'expériences désastreuses dont elle a levé les empêchements et les inhibitions. En effet, de ce point de vue, Michel Onfray a raison. La psychanalyse ne guérit pas, elle sauve.